plusieurs choses. Justement, ce que la méthode peut éventuellement devoir à Nietzsche, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, pourquoi clore la méthode par l'éthique? Et puis, je reviendrai ensuite sur trois grandes caractéristiques, mais il y en a beaucoup d'autres, hein, pour définir cette méthode qui vient à la fin et qui est effectivement dédiée souvent à l'ouvert, on peut le dire au sens même rilkéen du terme, une conclusion générale sur cet entrelacement très maurinien, parce que la méthode, c'est à la fois une pensée de la vie, c'est éventuellement aussi une pensée de la médecine, je dirais quelque chose d'un rapport avec Canguilhem, et puis c'est une pensée aussi de la démocratie, et j'en dirai quelque chose puisque je suis assez en accord sur la manière dont Morin voit la démocratie. Alors, ce que la méthode peut devoir à Nietzsche, parce que effectivement, ces méthodes qui viennent à la fin, cette pensée, nous pouvons l'attribuer à Nietzsche, hein, dans l'Antéchrist. C'est pas un auteur de prédilection de Morin, en tout cas, il ne le dit pas comme ça. Et pourtant, elle peut nous aider, cette pensée nietzschéenne, à orienter notre compréhension de la philosophie morinienne. Je rappelle juste l'extrait de l'Antéchrist. Ne sous-estimons pas ce fait. Nous-mêmes, nous les esprits libres, nous sommes déjà une transvaluation de toutes les valeurs, une très réelle déclaration de guerre et de victoire à toutes les vieilles conceptions du vrai et du faux. Les connaissances les plus précieuses se trouvent en dernier lieu, mais les connaissances les plus précieuses sont les méthodes. Et puis l'aphorisme 59 qui vient confirmer les méthodes, il faut le dire et le redire, sans se lasser, sont l'essentiel, et c'est aussi le plus difficile, ce qui a le plus longtemps contre soi les habitudes et la paresse. Et de fait, je pense que ça caractérise assez bien la pensée morinienne de résister à ses propres habitudes et à sa propre paresse. Chez Nietzsche, la méthode, elle est généalogique, elle traque, elle décrypte, elle déconstruit, non seulement, bien sûr, la question de l'origine, mais l'idée même d'une question originelle. Méthode qui déboulonne, c'est celle, bien sûr, du crépuscule des idoles, de la philosophie au marteau, de la philosophie du soupçon, celle qui tient à distance l'atroce, quotation, goût de vérité, celle qui interroge, effectivement, derrière les principes métaphysiques qui sont les nôtres, les préjugés moraux, et les valeurs à l'aune desquelles ils ont été édifiés en silence, souvent inconsciemment. La question de l'inconscient est aussi très présente chez Morin, même si elle ne se dit pas nécessairement comme telle. Ce qu'il y a de morinien chez Nietzsche, ou de nietzschéen chez Morin, parce qu'on a le droit de jouer à ces anachronismes-là avec Morin, c'est précisément l'inversion des valeurs. Alors, l'inversion des valeurs au sens paradigmatique du terme, c'est-à-dire au sens copernicien, non pas l'inversion pour remplacer un binarisme par un autre binarisme, ce qui serait finalement pas véritablement une grande inversion, ce ne serait pas une transgression, ce ne serait pas du paradigme, mais pour sortir du binarisme, pour sortir des logiques linéaires, causales, mais de manière univoque, binaire, verticale ou horizontale. Là, au contraire, chez Nietzsche, chez Morin, on intègre la logique du cycle, on intègre la logique des enveloppements, on intègre la logique de l'holistique, et bien sûr, chez Morin, plus spécifiquement, de la complexité. Chez les deux auteurs, il y a une forte conscience que la science, quand elle est pensée de façon divisée, plus objectivante qu'objective. À ce moment-là, la science mutile la connaissance en tant que telle, et elle mutile l'homme qui active cette connaissance. Elle manque son objet, elle produit croyance sur croyance, et non pas une pensée de déploiement analytique et synthétique capable de dépasser ses propres déterminismes. Et Morin n'aura de cesse d'en appeler à une éthique de la connaissance comme une autre sorte de nom de la méthode. C'est d'ailleurs le tome final, vous le savez. Le rasoir d'Occam, grand principe structurant de la connaissance, n'est pas abandonné, au sens où il serait contredit, nié, mais il est insuffisant. La simplicité qu'il propose est malgré tout trop souvent simpliste. Il faudrait un rasoir d'Occam capable de gérer cette complexité, un rasoir morinien, un rasoir d'Edgar, d'une certaine manière. Il y a des coexistences impossible si l'on se maintient dans un certain type de logique et de raisonnement strictement disciplinaire. Morin est un Cusain, hein, au sens de Nicolas de Cuse, qui ne s'ignore pas. Il est capable, par exemple, de concilier ce que souvent est considéré comme inconciliable, et je pense qu'au contraire, la modernité vient explicitement montrer que c'est conciliable. Il est capable de concilier les schèmes des Lumières et, par exemple, les schèmes de la Renaissance. Alors pourquoi clore la méthode par l'éthique ? Pascal est sans doute l'un des auteurs les plus éclairants pour comprendre comment la complexité morinienne est nécessairement une éthique, autrement dit à la fois une épistémologie et un humanisme, qui encore une fois développe, développe, ce qui est véritablement la manière dont pense Cuse, hein, c'est toujours une pensée qui développe et qui enveloppe, une loi primordiale, celle de la compassion, celle de la compassion au sens des liens d'affinité élective, c'est-à-dire des liens d'implication subjective, des liens universaux, des liens causants-causés. Et bien évidemment, il aime à citer ce fragment de Pascal, « Toute chose étant causée et causante, aidée et aidante, médiate et immédiate, je tiens impossible de connaître le tout sans connaître les parties, non plus que de connaître le tout sans connaître particulièrement les parties. » Et Morin avait commenté « Je me suis inspiré de cette réflexion pour commencer mon travail sur la méthode. C'est à sa conception de l'être humain comme tissu de contradiction, comme gloire et rebut de l'univers, que je me suis voué à une anthropologie complexe. » Donc, clore la méthode par l'éthique, c'était précisément, vous l'avez dit, la clore par l'ouvert, mais néanmoins avec un aiguillon particulier qui est celui de la responsabilité ou de l'humanisme, sollicitant donc toute la fonction critique dont il est capable, jusqu'à ébranler la conception de l'exceptionnalité de l'homme au sein du vivant. En tout cas, très clairement, chez Morin, s'il y a une exceptionnalité de l'homme, s'il y a, elle est du côté de la responsabilité à assumer son interdépendance et le fait qu'il est un parmi le vivant. Alors, trois grands temps sur cette méthode qui vient à la fin et qui est dédiée à l'ouvert. Trois caractéristiques. La première, c'est cette fameuse complexité. Sauf que c'est une complexité sur fond de complexité. Je veux dire par là que c'est une complexité sur fond d'abîme. Je prends le terme à dessein. C'est une complexité sur fond tragique. Et je prends aussi le terme à dessein, et la tragédie nous remet aussi du côté nietzschéen. Pour introduire la connaissance de la connaissance, à savoir méthode 3, Morin pose l'abîme, ou le risque permanent de l'erreur et de l'illusion. La recherche de la vérité est désormais liée à une recherche sur la possibilité de vérité. Comprendre la connaissance, c'est la voir éclater en miettes. Savoir, représentation, perception, synthèse, analyse, induction, inné, acquis, cerveau, conscience, inconscience, théorie, doute, critique, intuition, entendement, qu'est-ce que c'est ? On pourrait continuer indéfiniment. Ou plutôt, on pourrait déployer de manière multidimensionnelle la méthode pour définir la connaissance et cette notion importante d'inséparabilité Certes, au sens holistique, mais on pourrait même dire, parce que c'est une notion qui a, je dirais, aujourd'hui considérablement avancé, avec des auteurs par exemple comme Tim Ingold, avec des auteurs comme Timothy Morton. Pourquoi? Alors, Tim Ingold, qui est un auteur maurinien sans le dire, hein, avec The Life of Lines, par exemple, cette anthropologie qui aujourd'hui en fait essaye d'attraper la notion de l'anthropocène et des plans géométriques spatio-temporels dans lesquels nous sommes tous insérés, ces milieux de vie, ces inséparables. Donc, Timothy Morton, avec la notion par exemple d'hyper-objet, qui est très intéressante et qui là aussi est une notion qui pourrait intéresser Morin, parce qu'on vient travailler l'inséparable aussi sur fond d'abîme, sur fond de tragique. On parle de glu, on parle alors on pourrait dire du miel, mais vous voyez, c'est ça les hyper-objets, c'est-à-dire précisément quelque chose qui n'arrive plus à permettre un dualisme entre le sujet et l'objet. Un hyper-objet, c'est quelque chose qui. Le réchauffement climatique est un hyper-objet pour Timothy Morton, c'est-à-dire on est englué dans le système, on ne peut plus. Penser quelque chose d'extérieur à soi, mais aussi on ne peut plus donc produire une conception du sujet, puisque il n'y a plus d'objet, tout est transformé, sauf que chez Timothy Morton, il y a quelque chose de terriblement assassin pour le sujet et pour l'objet. Chez Morin, je crois que les assassins ne gagnent jamais. En tout cas, il y a quelque chose qui fait qu'une espérance maurinienne qui ne dit pas son nom tient le tout. Et justement, c'est pour ça que je ferai un lien ensuite avec Can Guilhem, parce que chez Can Guilhem, il y a aussi une intentionnalité qui ne dit pas son nom. Parce que bien sûr qu'il n'y a pas d'intentionnalité, mais pourtant, il y a quelque chose qui fait que toujours on essaye de produire du néganthropique, donc quelque chose qui va lutter contre l'entropie. Et c'est très, très morinien. Alors, les méthodes viennent à la fin signifie ben, tout simplement que la méthode n'est pas un guide a priori nous permettant d'analyser, de programmer des recherches. La méthode de Morin, elle relève d'une stratégie au sens effectivement de guerre contre des positions militaires qui seraient jugées trop dogmatiques. Il le dit, hein, on produit une attaque cognitive, on vise des nœuds qui sont des problèmes clés et on essaye effectivement de déstabiliser profondément ce qui se présente comme connaissance et qui est une relation savoir-pouvoir trop, comment dire, sclérosante. Héritage nietzschéen aussi, parce que Morin déclare avoir vécu, vous le savez, plusieurs tragédies, et je ne parle pas ici de celle qui a inauguré sa vie, quoique, puisque malgré tout il pose comme une légende à la fois et comme une réalité. En amont de toute connaissance et de tout parcours de vie, le sien, et de sa capacité incommensurablement résiliente, l'événement primordial de la mort de sa mère, Luna, l'astre éteint qui luit toujours. Mais là, plus spécifiquement dans Méthode 3, il évoque une autre forme de tragédie. Mais le terme est quand même celui-là, il parle de la tragédie bibliographique. Autrement dit, l'accroissement exponentiel des connaissances, la tragédie de la réflexion et de la complexité qui rend tout objet de connaissance impossible, au sens où il sera nécessairement trop réduit, trop réifié, et en même temps, qui rend la synthèse, de la connaissance, improbable. Ce qu'il nomme encore la tragédie de l'inachèvement. Mais là encore, le gai savoir nietzschéen pourrait rester un guide pour comprendre qu'est-ce que c'est que cette tragédie de l'inachèvement et comment cette tragédie de l'inachèvement, malgré tout, produit un destin individuel et un destin collectif. Premier temps, cette complexité sur fond d'abîme, sur fond de tragédie. Deuxième temps, le computo. Qu'est-ce que le computo chez Morin et quelle est la conception de la pensée et du sujet ? Le sujet, d'ailleurs, chez Morin, est-il encore une fiction régulatrice ? Est-ce que ça a du sens de... Quelle est la conception du sujet chez Morin ? Pour définir la connaissance, Morin, effectivement, n'évoque pas le cogito cartésien, bien sûr, mais le computo, qui est l'opérateur clé d'un processus ininterrompu d'autoproduction, constitution, organisation d'un être-machine qui, en même temps, est un individu-sujet. Autrement dit, connaître, c'est computer, avec plusieurs sens qui ont dû sans doute être bien expliqués lors des précédentes communications. Traduire en signes, c'est ça computer, produire des symboles, construire selon des règles, solutionner des problèmes. Mais ce n'est pas un computo purement mécaniste au sens où l'on pourrait l'entendre aujourd'hui, avec la réalité algorithmique, par exemple, de l'intelligence artificielle. C'est un computo sur fond d'abîme. C'est un computo sur fond tragique. Et d'ailleurs, sur fond de réel de la mort. C'est un computo capable donc de comprendre ce réel de la mort. Computo tragique qui serait donc à ce moment-là compatible avec l'éthique. La connaissance cérébrale est une méga-computatio, de micro-computatio neuronale, de méso-computatio régionale et d'intercomputatio entre neurones et régions. Il aime à citer Grégory, nous sommes des monstres cérébraux, puisque les hommes disposent de 30 milliards au moins de neurones, et tout l'enjeu c'est de saisir comme ça les multiples chemins rhizomiques du dépassement de la computatio en cogitation. Et quel est le chemin ? C'est le chemin de l'inséparé. Chemin de la séparée est ce qui produit une conscience, puisque c'est le chemin de la séparée qu'on pourrait nommer autrement la dialectique évolutive multidimensionnelle ou la récursion cerveau, main, technique, culture. C'est ça, l'inséparé, c'est ça le grand cycle, la synthèse ouverte, c'est ça l'en-deçà de ce qui permet éventuellement le sujet, sachant qu'il ne faut surtout pas s'illusionner sur le sujet, parce qu'on ne sait pas. Mais malgré tout, ça reste une balise, parce que justement, en dernier fond de la méthode, il y a l'éthique, donc on ne peut pas totalement abandonner la conception du sujet. Mais on ne peut certainement pas s'illusionner sur ce qu'on nous propose comme conception du sujet. Donc le sujet, c'est ça, c'est ce circuit de l'inséparé, dialectique évolutive multidimensionnelle, ou la récursion cerveau, hein, technique, culture. Voilà. Et dès lors se développent des conditions cérébrales, des conditions génétiques, sociologiques, culturelles, praxis, techniques du développement de la connaissance. Le computo est un constituant constitué, sans origine, sans finalité. Et donc, on a cette conception du sujet, notion qui, effectivement, semble ne pas avoir de sens chez Morin, tant le sujet est désacralisé dans sa fonction univoque, il est presque dédogmatisé, mais en fait, non, le sujet est complexifié. Et intéressant de voir que pour définir le sujet, Morin va aller chercher précisément quoi ? Le fonctionnement d'une bactérie. Le computo et la bactérie permettent de dire « je ». Et je cite Morin, c'est notamment dans « Computo ergo sum », qui était un article qu'il avait fait paraître dans la revue des schizoanalyses en 90. « Je dois dire plutôt « computo », elle compute. Elle compute à la première personne. Elle compute pour soi. » À ce moment-là, employer le verbe computo devient un scandale pour les partisans du noble cogito, qui disent, mais comment ? Vous utilisez ce mot ignoble, venu de la machine, pour définir ce qui est le plus beau dans la pensée, dans la conscience humaine. Je n'y peux rien. Elle compute pour soi. Elle se situe dans ce site égocentrique. Tout acte organisateur, acteur de la bactérie, suppose de façon automatique l'équivalent de l'opération « je suis moi ». « Je », ça veut dire « j'occupe le site du centre de mon monde ».« Je », c'est l'occupation d'un site. Du reste, du point de vue linguistique, il est évident que le « je » ne peut signifier que cela, puisque n'importe qui peut dire « je », mais comme nous le verrons, personne ne peut dire « je » pour moi. De ce site, je peux produire l'objectivation de ce « je », qui est le « moi », être matériel vivant, or ce « moi » objectif est distinct, distingué, et en même temps réapproprié. Et pourquoi prétendrais-je que la bactérie dit « je suis moi » bien qu'elle ne le dise pas? Parce que si vous réfléchissez au fait qu'elle est capable de traiter objectivement les molécules qui constituent son propre être, si elle est capable de transformer des molécules étrangères en molécules de soi qui lui appartiennent, il est évident qu'il faut être sans cesse capable d'objectiver ce qui nous constitue, et cela tout en le resubjectivant, en l'inscrivant dans ce circuit valorisé par rapport au non-soi. Donc qu'est-ce que c'est que le computo? C'est un principe d'exclusion et d'inclusion. C'est ça, on pourrait dire, d'enveloppement-développement, en reprenant une formule cusaine de coïncidence des opposés. C'est une conscience de l'inséparé. C'est une conscience de la coévolution multidimensionnelle entre l'inséparé et le se disant soi-disant séparé, qui s'appelle le sujet. Donc ici, bien évidemment, le sujet, absolument pas comme substance, mais comme circuit. Je dirais même pas relation, parce que relation, ce serait une terminologie peut-être trop intersubjective. Donc, circuit. Au sens où nous sommes poreux à tout le vivant, mais tout le vivant, des ondes jusqu'aux êtres humains, en passant par les objets, en passant par les distances, les imaginaires, les représentations. Quand je dis les distances, je le dis volontairement parce que vous connaissez les travaux d'Edward Hall sur la proxémie, etc. Et je pense que nous avons fait une expérience dernièrement vraiment réelle, parce qu'on oublie un peu la vérité culturelle et sociale des distances, la vérité symbolique des distances, parce qu'au jour le jour, voilà, on est tellement, c'est tellement intégré en fait à notre corps, comme si c'était une interface de nous-mêmes. Et là, tout d'un coup, les distances étaient totalement bouleversées et on a vu à quel point on était malgré tout déstabilisé, par exemple, par l'absence de corps dans l'espace public, au sens où, malgré tout, ces distances avec des êtres que nous ne connaissons pas, témoignent, la qualité de cette distance témoigne de l'affectio societatis dont nous avons besoin pour tenir. Et que quand tout d'un coup, c'est pas là, ça tient plus. Il y a une fonction stabilisatrice de ces distances urbaines, de ces distances civiles. Pas que, alors qu'on se dit dans un premier temps, ben non, la distance qui est stabilisatrice, c'est celle que j'ai avec l'être aimé, c'est cette première proxémie, c'est ce premier cercle, en fait, pas du tout. C'est toute une dialectique, oui, l'intimité, mais ensuite, ce deuxième cercle qui est une distance un peu plus éloignée et qui nous stabilise aussi, qui nous rassure, qui est le synonyme de l'absence de guerre ou l'absence de catastrophe ou l'absence de... On est construit par les distances. Et donc, à intégrer, bien évidemment, dans notre conception du sujet. Donc, ça ne veut pas dire que les ondes, les êtres humains, les objets, les distances, les imaginaires, les représentations, tout ça n'est absolument pas assimilable. Pas du tout. Mais en revanche, rien... Et c'est ça qui est désagréable. Rien ne peut être mis de côté. Donc le rasoir d'Edgar, c'est un rasoir qui est un râteau, qui remet tout dans précisément ce que le premier geste de discernement, qui est celui de diviser, on divise, mais hop, on remet dedans. Et c'est un scalpel d'une finesse infinie, mais qui sans cesse remet sur le métier ce qui avait été mis de côté. Et c'est là où simplement ça, ce geste-là, de remettre ceux qui avaient été mis sur le côté, ce geste-là, il est démocratique, puisque c'est un geste de l'inclusion, de construire la norme sans cesse par ce qu'il y a sur le côté, et toujours remettre cela. L'objectivation du jeu et la resubjectivation du moi constituent le circuit permanent, je suis moi, circuit automatique qui permet toutes les opérations vivantes et vitales. Troisième temps pour définir ce, comment dire, cette méthode qui vient à la fin, le rapport entre la physique et la généalogie. On revient à la vérité généalogique, bien évidemment, classiquement, celle du temps qui nous précède. Mais en fait, chez Morin, la vérité généalogique, c'est aussi une vérité des espaces qui nous précèdent, et pas simplement du temps qui nous précède, des étendues qui nous précèdent, des matières qui nous précèdent, qui sont irrémédiablement là, sans lesquelles on ne peut pas penser, et que nous oublions sans cesse, car penser avec un tel niveau de complexité est difficile, voire impossible. Je cite Morin, « Nous possédons des gènes qui nous possèdent. Voilà la seule formule par laquelle je peux exprimer la relation de l'individu à l'espèce. Nous sommes possédés par des injonctions qui viennent d'avant nous, qui nous sont léguées par notre mémoire héréditaire et auxquelles nous obéissons. » Alors c'est très à la fois génétique et épigénétique, et c'est très au sens généalogique, la psychanalyse est très en accord avec cette manière de penser. Mais le fait d'avoir ces gènes nous permet aussi d'avoir l'autonomie, d'avoir l'existence du sujet. En quelque sorte, le fatum génétique peut se transformer en destin individuel avec toujours une formidable incertitude. Et c'est là où Morin, c'est vrai, dans ces périodes, aujourd'hui, nous aide à augmenter notre seuil de tolérance à l'incertitude. Nous sommes doublement possédés en tant que sujet, d'abord par quelque chose qui tient d'avant nous, nos parents, nos ancêtres, mais aussi par la société. Et donc on voit bien ici que la définition de la généalogie est quelque chose de totalement circulaire, pas du tout vertical et linéaire, mais encore une fois qui relève de la synchronie, qui relève des espaces, qui relève de la géométrie, qui relève des plans, qui relève en fait de la physique. Ce que Morin a cherché à mettre en œuvre et à penser de façon continue, c'est cette dialectique, nous l'avons dit, évolutive, multidimensionnelle, ce mouvement, ces rétroactions permanentes, ces flux, ces réseaux, ces nœuds, vous appelez ça comme vous voulez, ces cercles, ces résonances entre cerveau, main, culture, technique, le tout sur le dit système Terre. Comment traduire ces lignes de fuite, ces perspectives, ces points de butée, ces vecteurs, comme si la connaissance n'était qu'une grande physique, les lois de la physique et de la connaissance étant tout aussi principielles qu'énergétiques. Donc, pour dire un mot, comment dire, de fin sur la méthode et le fait de dire que c'est à la fois une pensée de la vie, une pensée de la médecine et une pensée de la démocratie, ou des bouts de pensée sûre, parce que je dirais que c'est des chemins qui sont à prendre et à construire aussi pour les héritiers, les successeurs, etc. La méthode, c'est une définition autre de l'homme, et qui aujourd'hui ne fait plus doute pour personne. C'est ça aussi l'intuition paradigmatique qu'on a chez Morin, c'est que sa définition de l'homme, elle est aujourd'hui totalement compatible avec celle défendue par l'Anthropocène, ce qu'il appelle l'homme péninsulaire, soit l'homme qui n'est pas retranché comme une île, sans lien avec la nature, en position de surplomb ou d'illusoire autonomie. Ce qui meurt aujourd'hui, ce n'est pas la notion d'homme, mais une notion insulaire de l'homme, retranché de la nature et de sa propre nature. C'est dans le paradigme perdu. Définition de l'homme qui se dialectise avec une définition de la méthode, au sens où celle-ci défend, on le sait, une forme d'interdisciplinarité, de jeu avec la frontière disciplinaire, non pour la nier, mais justement pour éviter l'insularisation d'un problème, pour éviter la programmation de son hors-sol. Et effectivement, on ne dissocie pas l'idée maurinienne de l'homme, de celle de la méthode, de celle de la vie. On parle beaucoup d'errance, de processus d'inachèvement. Dans une des préfaces, à un ouvrage qui comme ça, réunit différents textes, et qui s'appelle, je crois, La complexité humaine, enfin, et qui reprend un parcours à l'intérieur des œuvres de Morin. L'introduction de Weimann dit, voilà, nous sommes dans l'errance et nous ne sortirons pas de l'errance. Sauf que cette errance, on peut malgré tout considérer qu'elle raconte non pas une errance diagnostique, quoique elle raconte une errance diagnostique, mais elle est aussi, et je prends la formule de Canguilhem, à intention de guérison. Alors pourquoi je convoque ici une pensée de Canguilhem ? Parce que Canguilhem pose la vie comme une méthode particulière, une méthode médicale, une vis médicatrice natura, une force médicale naturelle. Canguilhem défend une conception de la médecine comme art de la vie. Nous pensons qu'en cela, le vivant humain prolonge, je cite Canguilhem, de façon plus ou moins lucide, c'est du Conatus, hein, c'est un effort spontané, propre à la vie, pour lutter contre ce qui fait obstacle à son maintien et à son développement pris pour norme. C'est parce que la vie est activité d'information et d'assimilation, on pourrait rajouter d'organisation au sens maurinien, quelle est la racine de toute activité technique. Autrement dit, il y a l'inachèvement, bien sûr, une forme d'errance. Et je vous dis, on peut filer la métaphore jusqu'à une forme d'errance diagnostique. Et pourtant, il y a chez Morin et chez Canguilhem une forme d'espérance qui pourrait considérer que la vie charrie une forme d'intentionnalité alors même qu'elle n'a pas d'attention, mais au sens de Canguilhem. Et c'est très intéressant de voir que l'intention de guérison, en fait, c'est quoi ? C'est la production d'une maladie, donc il y a toujours le fond d'abîme et de tragédie, c'est la production d'une maladie comme invention du vivant, pour tenir. La maladie n'est pas seulement déséquilibre ou disharmonie, elle est aussi et peut-être surtout effort de la nature en l'homme pour obtenir un nouvel équilibre. La maladie est réaction généralisée à intention de guérison. L'organisme fait une maladie pour se guérir. Et c'est très maurinien, hein, parce que chez Morin, il y a toujours le fait que, à l'intérieur d'un principe d'organisation, il y a la désorganisation, il y a la question du chaos, et il y a une dialectique comme ça, où derrière le logos, en fait, c'est le chaos dans sa puissance énergique qui vient et qui s'agit de réorienter, et bien sûr on faillit, mais voilà. La vie est une réaction généralisée à intention de guérison. La méthode est une réaction généralisée à intention éthique. Je peux m'amuser à faire cette paraphrase. Morin cherchera toujours à interroger les dimensions anthropiques et néganthropiques qui nous gouverne et qui nous illusionne, bien sûr, sur les dynamiques d'intentionnalité, mais qui nous illusionne aussi sur les dynamiques d'errance. Donc, le fait même de poser l'éthique, je pense que c'est ça qui nous oriente, si vous voulez, le fait même de poser l'éthique comme fin mot de la méthode, montre malgré tout l'intention de guérison, même si cette intention de guérison surgit par la maladie comme invention du vivant. Inscrire la philosophie maurinienne dans une éthique du vivant, terrienne ou encore planétaire, est un projet quasi inaugural avec les premiers textes de la méthode. Je cite « La Terre est une totalité complexe, physique, biologique, anthropologique, où la vie est une émergence de l'histoire de la Terre et l'homme une émergence de l'histoire de la vie. » Morin défend ce qu'on pourrait appeler un universalisme concret, des interdépendances qui ne forment pas spontanément une solidarité, bien qu'il soit impossible d'échapper à leur boucle de rétroaction interactionniste ou dialectique. Et c'est une définition aussi de la démocratie qui se relie à cet art de la médecine. Pourquoi ? Parce que souvent, pour définir la démocratie, Morin use de la comparaison avec la médecine, ou en tout cas utilise le vocabulaire médical, au sens où, par exemple, la démocratie, qui est une conquête, je vous le rappelle, de complexité sociale, c'est ça une des définitions de la démocratie chez Morin, et on voit donc qu'elle est indissociable du processus de connaissance, puisque le processus de connaissance est une conquête de complexité. Point. La démocratie est un système métastable, vraiment au sens où on connaît le métastable à l'intérieur de l'organisme, qui a la qualité de se maintenir à travers les conflits intérieurs, les innovations, les événements imprévus. La démocratie est nourrie par deux boucles récursives. Vous connaissez, les gouvernants dépendent des citoyens qui dépendent des gouvernants. Et puis, bien évidemment, la démocratie produit des citoyens qui produisent la démocratie. Alors, juste avant de conclure, c'est vrai que c'est... il prêche une convaincue, puisque c'est une conception morinienne à laquelle je suis particulièrement sensible, pour avoir moi-même défendu un lien indéfectible entre la qualité du principe d'individuation et la constitution de l'État social de droit. Lui parle de boucles récursives, je parle de ruban de Moebius, d'autres parlent de nœuds. Pour ma part, j'ai filé plusieurs rubans. La question du courage comme théorie du sujet, et donc l'illusion d'un sujet un, au sens où, au contraire, le sujet est la fin d'un process et d'une théorie du courage. La revendication toute silencieuse de l'irremplaçabilité du sujet, non pas du tout comme exercice mégalomaniaque, mais au contraire comme simplement refus de se produire comme remplaçable, au sens où je ne serai pas responsable, au sens où un autre peut dire « je » à ma place. Or, Morin nous dit « non, personne ne peut dire « je » à ma place ». Et bien sûr, au fait où la qualité du processus de subjectivation protège la durabilité même de la démocratie. Et puis, autre grand ruban de Moebius que j'ai pu filer, c'est en évoquant dernièrement la question à la fois historique et psychique du ressentiment individuel et collectif, où là, on peut filer un ruban de Moebius, comment dire, à l'écho lacanien entre la mère et la mère, et vous vous débrouillez pour l'écrire comme vous voulez. Ce qui, tout cela pour dire que Morin, en gros, pourrait définir la démocratie ainsi. La démocratie, en langage politique, serait un phénomène de désintégration organisatrice. Phénomène de désintégration organisatrice, au sens où le chaos, le conflit, et même parfois plus que le chaos, l'entropie, l'entropie, dont elle peut faire l'objet, dont elle fait l'objet, produit un logos, ou en tout cas c'est l'effort, c'est cette intention malgré tout de produire un logos. C'est ça la démocratie, au sens de l'État social de droit, bien sûr, et pas de tyrannie de la majorité. L'enseignement de Morin, c'est que nous sommes toujours aussi, vous le savez, dans la Genèse, nous sommes toujours dans le chaos, nous sommes toujours dans l'univers se constituant. Nous sommes toujours dans la démocratie se constituant. Elle est toujours naissante, elle est toujours inachevée. Comme l'univers s'est formé dans le chaos et que l'univers continue d'apparaître, de même, la démocratie est la tentative la plus élaborée pour les hommes de faire signifier, donc de donner une signification éthique, si possible, de faire signifier l'énergie chaotique sans cesse à l'œuvre dans précisément les interactions socio-historiques. Voilà, je vous remercie.